Bonsoir à tous. La semaine dernière, donc, je vous fais un rapide rappel de ce qu'on avait déjà parcouru dans l'éthique d'Aristote. On avait vu que le but de l'éthique, c'est la vie heureuse, c'est d'étudier les conditions pour pouvoir réaliser la vie heureuse. Et donc le but, c'est celui de l'éthique, au sens où éthique vient de ethos, le caractère, parce que c'est par la formation du caractère qu'on va le mieux parvenir à la vie réussie, la vie heureuse. Et bien sûr, Aristote ajoutait que personne ne voudrait d'une vie qui soit dépourvue aussi d'autres biens que les qualités du caractère, hein, des biens extérieurs, des ressources, des biens du corps. Et puis il y a quelque chose qu'on va voir aujourd'hui et qui doit faire partie d'une vie heureuse, c'est l'amitié. Personne ne voudrait d'une vie sans relation affective, et donc on va parcourir ça aujourd'hui. Mais donc d'abord voyons une répétition, peut-être j'avais été assez vite sur le syllogisme pratique, comment en fait ce syllogisme se réalise spontanément quand on doit agir, quand on doit prendre une décision qui n'est pas évidente et dont, pour laquelle il faut réfléchir à ce qu'il est vraiment bien de faire. Donc on a en position de première prémisse, c'est-à-dire ce qu'on appelle la majeure, toujours le principe général. Donc on se dit, par exemple, il faut dire la vérité, mais donc d'une manière générale, hein, qu'est-ce qui est bien de faire ? Et puis, on a la mineure qui est l'adaptation de la généralité à la situation particulière où on se trouve. Donc, sachant que je dois dire la vérité, mais que dans certains cas, la vérité n'est pas bonne à dire, dans quelle situation est-ce que je me trouve en ce moment ? Est-ce que c'est une situation où je la dis ou je ne la dis pas ? Hein ? Par exemple, dans le cas de grand danger, il ne faut pas la dire. Bon. Donc, ceci est ce qui correspond à la vérité générale dans ma situation. Ça, c'est l'intelligence qui le réalise. Et donc, je conclus. Donc, je vais faire ceci. Hein, je choisis ceci. Et ensuite, il faut encore qu'intervienne une délibération sur les moyens d'arriver à faire correctement ce que j'ai décidé qu'il était bon de faire. Donc, la délibération porte uniquement sur les moyens. Et l'ensemble de toutes ces facultés qui interviennent, donc d'une part, on a les qualités du caractère qui font que le désir d'agir est orienté vers un but correct, vers un bon but. On a l'intelligence hein, qui voit comment la situation particulière se place sous la généralité. Et on a la délibération qui intervient ensuite. Tout ça, l'ensemble du processus, est mis sous la faculté de phronesis. Hein, la phronesis, la sagesse pratique, l'habileté pratique. Et il y a un cas particulier que signale Aristote, qui est lorsque on a le but correct, on a l'évaluation correcte de la situation, donc on sait ce qu'on doit faire, on a pris la décision de le faire, mais on est incapable de le faire. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas capable de maîtriser des tendances à faire autre chose, donc on est incapable de maîtriser ses désirs. C'est surtout dans le domaine couvert par la tempérance qu'on peut trouver ça, donc on cède à des désirs, ou ça peut être aussi, Aristote dit par extension, ça peut être aussi un désir d'argent ou de prestige. Donc on sait qu'on ne devrait pas, mais on ne peut pas se maîtriser. Et cette incapacité de se maîtriser se dit en grec akrasia. Akrasia, ça veut dire vraiment littéralement l'alpha privatif, et puis kratos, la force. On n'a pas la force, on n'a pas la maîtrise de soi. Donc c'est blâmable, évidemment, puisqu'on fait ce qu'il ne faudrait pas, mais c'est moins blâmable que l'intempérance, qui est un choix de ne pas favoriser la maîtrise du désir. Donc l'intempérance, on avait vu, c'était le contraire de la tempérance, c'était l'excès blâmable. C'était vraiment se forger un caractère qui estime que ben, il faut céder à ses plaisirs et voilà. Donc il y a une grande différence entre celui qui, pour qui ça ne fait pas de problème, pour qui c'est vraiment une décision de personnalité, ça ne le dérange pas d'avoir une personnalité immaîtrisée, et celui qui voudrait bien être autrement mais n'y arrive pas. Donc on a, bon, c'est quelque chose de très courant évidemment. Donc les plaisirs, on avait bien vu que pour Aristote, ce n'était pas du tout quelque chose de condamnable en soi. Le plaisir, c'est quelque chose de bien. Quand on prend plaisir à une action, on la fait mieux. Hein, il y a des plaisirs qui viennent évidemment des belles actions. Et puis, il y a des plaisirs qui viennent de mauvaises actions. Seuls ceux-là sont condamnables. Donc, on a une vision de la vie très inclusive. Hein. On a besoin de toutes les activités, de tous les types de plaisirs. Et l'amitié s'ajoute à ça. Alors, l'amitié, Aristote se sert d'un terme, d'ailleurs, qui est le terme habituel chez les Grecs, qui est très large, qui signifie, au fond, toute relation d'affection. Ça correspond au verbe aimer. C'est le mot philia. Philia, ça vient du verbe philein, aimer. Et ça regroupe, au fond, toutes les façons d'aimer. Sauf l'amour passionnel. Donc ça, j'y viendrai, j'en dirai un tout petit mot après. Donc il y a un sens très large, et puis Aristote va le réduire vers un sens très étroit, qui est l'amitié au sens vraiment électif, au sens assez rare et exceptionnel, qui existe aussi, enfin, qui correspond aussi au terme en français. Mais d'abord, il montre que l'amitié est nécessaire pour une vie heureuse et qu'elle est belle, et il montre aussi qu'elle est naturelle. Elle est naturelle parce qu'on voit que même chez les animaux, il y a des relations affectives. Par exemple, la relation des parents pour leurs petits, qui est vraiment une relation de préoccupation, d'affection. Et puis, aussi le plaisir que beaucoup d'animaux ont à se trouver avec leurs congénères, une sorte d'affinité d'espèce. Ils ont plaisir à vivre entre eux, entre congénères, et donc il y a très clairement là des relations affectives. Donc c'est quelque chose de tout à fait naturel. Mais ce qui intéresse Aristote, évidemment, c'est ce qui est spécifique aux êtres humains dans cette relation. Et il va d'abord délimiter trois caractéristiques qui sont nécessaires pour qu'on puisse parler de philia, même dans un sens large. Pour qu'on puisse parler d'aimer dans un sens large, il faut qu'il y ait d'abord une réciprocité. Il faut que ce soit une relation réciproque. Et ça écarte d'emblée l'attachement qu'on peut avoir à des objets, à des choses inanimées. On peut aimer des choses inanimées, on peut être attaché sentimentalement à certains objets, mais ce n'est pas une relation d'amitié, parce qu'ils ne peuvent pas nous le rendre, les objets. Donc ça écarte ce type-là, que Aristote, du coup, appelle d'un autre nom, mais toujours sur la même racine. C'est juste une variante, c'est philotès. Philotès, on pourrait dire, c'est l'attachement affectif, mais aussi pour des objets. Donc, on écarte déjà ça avec le critère de réciprocité. Et puis, on ajoute l'exigence de bienveillance. Il faut vouloir du bien à ses amis. En fait, quand on aime quelqu'un, on lui veut du bien. Et il faut que ce soit conscient chez les deux personnes qui sont dans cette relation d'amitié. Il faut que chacun soit conscient que l'autre lui veut du bien. Et que ce soit donc aussi une réciprocité, mais dans la conscience. Et ça écarte quoi, par exemple? Mais vous pouvez aimer quelqu'un que vous ne connaissez pas ou qui ne vous connaît pas. Par exemple, aimer un acteur ou un athlète, et donc vous lui voulez du bien, vous voulez qu'il gagne le concours, vous voulez qu'il ait le succès qu'il mérite. Mais ce n'est pas réciproque, puisque lui, il ne vous connaît pas. Donc ce n'est pas une relation d'amitié. Donc on voit bien, de nouveau, comment ça précise ce que c'est exactement une relation d'amitié. Il faut qu'on soit conscient et qu'on se rende ce sentiment. Alors, dans cette relation définie de cette manière-là, il y a encore trois sortes. Il y a une amitié qui est surtout motivée par le plaisir d'être ensemble. Une sorte de camaraderie, d'amitié qui, dit Aristote, se trouve surtout chez les jeunes, parce qu'on s'amuse ensemble, on est plaisant l'un par rapport à l'autre. C'est très agréable de se retrouver ensemble. Mais ce sont des amitiés qui ne sont pas nécessairement durables, parce que, justement, elles ne sont fondées que sur un plaisir assez superficiel d'être ensemble. Ensuite, il y a une amitié qui est d'utilité. Donc, on aime vraiment quelqu'un, mais en fait, c'est surtout pour se rendre service l'un à l'autre. Comme on peut avoir entre voisins, par exemple. On se dépanne, on se rend service. Mais enfin, ça ne va pas plus loin. La motivation n'est pas plus que celle-là. Ces deux amitiés, Aristote dit qu'elles sont d'une certaine manière par accident. Parce qu'on n'aime pas la personne pour ce qu'elle est vraiment. On ne l'aime pas vraiment pour elle-même. On l'aime parce que c'est agréable d'être avec elle, parce qu'on s'amuse ensemble, ou parce que c'est utile, ça peut nous servir. Et l'amitié qui n'est pas par accident, l'amitié qui est vraiment proprement dite, qui est donc vraiment cette amitié au sens strict, alors c'est l'amitié qui est motivée par l'estime qu'on a vraiment pour l'autre personne. Donc le fait qu'on trouve que c'est une personne qui est vraiment bonne, une personne qu'on trouve, dont on trouve énormément de qualités, et on a une affinité par rapport à ces qualités. Et c'est réciproque, bien sûr. C'est réciproque, donc, pour être un vrai ami, il faut être soi-même une bonne personne. Et donc les personnes qui ne sont pas bonnes, enfin qui ont trop de défauts, ne peuvent pas être vraiment amies. Parce que justement, elles ne peuvent pas être appréciées pour elles-mêmes, parce qu'il n'y a pas de raison de les apprécier pour elles-mêmes. Elles peuvent être des compagnons agréables et joyeux, oui, pas de problème. Elles peuvent même être utiles dans une certaine association utilitaire, ça peut arriver. Mais être des vrais amis, ce n'est pas possible. Il faut pour ça être des bonnes personnes, parce qu'il faut pouvoir s'apprécier pour ce qu'on est. Pour ce qu'on est. Donc c'est là, évidemment, que Aristote valorise plus que tout. Et cette amitié-là, dit-il, elle s'installe lentement, parce qu'il faut d'abord bien se connaître, justement, pour s'apprécier à sa juste valeur, il faut bien se connaître. Donc ça va lentement, mais après c'est très durable. La seule chose qui peut interrompre une telle amitié, c'est que l'un des deux change. Et que donc, du fait qu'il change, il n'est plus cette personne qu'on a tellement appréciée. C'est la seule donc, qui peut s'installer dans le temps, et qui demande aussi une fréquentation très assidu. En fait, pour qu'on soit vraiment amis, il faut qu'on se voit souvent, il faut qu'on passe beaucoup de temps ensemble, il faut qu'on ait des tas d'activités communes. Alors bien sûr, parce qu'on a des goûts communs, hein, donc on s'apparie parce qu'on a des goûts communs, mais aussi parce que pour éprouver ce plaisir d'être ensemble, pour éprouver ces échanges qui sont très agréables, il faut se voir souvent. Donc si des amis sont obligés d'être séparés, pour une raison ou pour une autre, pendant de longues périodes, l'amitié se détend. Ce n'est plus exactement l'amitié. Il reste la bienveillance, bien sûr, réciproque, mais on ne peut plus parler exactement d'une amitié au sens strict. On se perd un peu. Donc il faut se fréquenter souvent. Et par conséquent, on en a très peu des amis. Il ne faut pas s'imaginer qu'on peut avoir beaucoup d'amis. C'est impossible, d'abord parce que c'est tellement électif, hein, il faut tellement avoir une affinité particulière avec une personne, ensuite parce qu'il faut passer beaucoup de temps ensemble, on ne peut pas le faire avec énormément de gens, donc en fait, les amis sont rares. Mais c'est pas grave, on n'a pas besoin. La quantité, dans ce cas-là, est inutile. Ce qu'il faut, c'est une qualité, évidemment, de relation, c'est toujours avec peu de personnes. Et donc, on peut dire qu'un ami est un autre soi-même, hein, l'expression se trouve déjà là, un ami c'est un autre soi-même, c'est quelqu'un qu'on aime autant que soi-même. Et là, Aristote fait une petite digression pour discuter sur ce fait que certains considèrent qu'il ne faut pas trop s'aimer soi-même, que c'est une forme d'égoïsme, par exemple, hein, de s'aimer soi-même. Et il dit que pas du tout. Si on s'aime soi-même parce qu'on est quelqu'un de bien et parce qu'on est en accord avec soi-même, c'est-à-dire qu'on n'est pas déchiré, hein, comme par exemple la Cratès, hein, celui qui est déchiré entre ses désirs et sa raison, entre ce qu'il voudrait et ce qu'il fait vraiment. Bon. Si on est une personne qui n'est pas déchirée intérieurement, quelqu'un qui est en accord avec soi-même parce qu'il a conscience de faire ce qu'il doit, ce qu'il veut, donc qui est en fait... qui est en bonne compagnie quand il est en compagnie de lui-même, hein, qui n'a pas besoin de se fuir parce qu'en fait il se méprise lui-même ou il est en bonne compagnie, et bien, cette qualité de relation qu'on peut avoir avec soi-même, on peut l'avoir aussi avec l'ami qui nous est assez proche, hein, qui nous est, pas nécessairement qu'on soit identique, mais comme on a le même agrément à être avec son ami, à le sentir, à l'écouter, à échanger avec lui, qu'on a avec soi-même si on est en accord avec soi-même. Donc, s'aimer soi-même et aimer son ami, en somme, ça revient au même, dit Aristote. Donc, c'est vraiment, on a envie d'une telle relation, hein, quand on le lit. Et ça, évidemment, c'est une amitié qui n'est possible qu'entre des personnes qui sont suffisamment égales quant au statut social, quant à l'âge. Hein, parce que s'il y a des grandes différences de ce type, il y a d'autres formes d'affection qui peuvent avoir lieu, mais ce ne sera pas vraiment ce type d'amitié-là. On va tout de suite voir pourquoi. Il donne deux exemples, l'amitié des parents pour leurs enfants et réciproquement, des enfants pour les parents. Ce sont des amitiés entre inégaux, parce qu'on n'a pas du tout le même âge, ni le même rôle l'un par rapport à l'autre, c'est asymétrique comme rôle. Les parents aiment plus, dit-il, leurs enfants que l'inverse, parce que c'est comme leur œuvre, c'est eux qui l'ont faite, ils en ont la préoccupation très très vive. Alors que les enfants aiment plus leurs parents comme des bienfaiteurs, ils leur doivent tout. En premier lieu, la vie, mais aussi l'entretien, l'éducation. Et donc, ils ont surtout une amitié de reconnaissance par rapport à leurs parents, d'où aussi, quand leurs parents seront âgés et auront besoin d'eux, c'est quelque chose d'absolument sacré, c'est un devoir sacré de s'occuper d'eux. Et ça, on est dans une civilisation où c'est une évidence. Les enfants, c'est une assurance pour la vieillesse. Les enfants, oui, c'est un devoir sacré. Quelle que soit la qualité de la relation par ailleurs, c'est un devoir sacré de s'occuper de ses vieux parents. Mais d'après Aristote, pour lui, c'est une évidence que ça se passe volontairement et volontiers parce que, justement, on a cette reconnaissance envers les parents pour ce qu'ils ont fait pour nous. Donc, on voit bien que ce n'est pas la même chose que l'amitié, hein, des vrais amis dont il a parlé précédemment. C'est autre chose. Une autre relation asymétrique, c'est celle entre l'homme et la femme dans le couple. Et donc, il parle là du couple marié, hein, des époux. Ça ne peut pas être une amitié du même type parce qu'on ne fait pas les mêmes activités. On passe du temps ensemble, donc il y a quand même une certaine affection qui se passe, mais on n'est pas égaux dans cette relation. D'après Aristote, mais là vous allez tout de suite voir l'influence évidemment du type de société, hein. D'après Aristote, le couple est bien quelque chose de naturel, le couple hétérosexuel est bien quelque chose de naturel, bon, d'abord parce qu'il y en a besoin pour la reproduction, mais ça ne suffit pas comme argument, il s'en rend bien compte, parce qu'il dit, il y a des animaux chez qui justement les deux sexes ne se rencontrent que au moment de la reproduction et après ne vivent pas ensemble. Il y a des tas d'animaux chez qui, même des mammifères, chez qui seule la femelle s'occupe des petits et s'en sort très bien. Et puis il y a des animaux chez qui ça se fait plutôt en commun, enfin à plusieurs. Donc le couple n'est pas rendu stable et durable à cause de la progéniture. Hein, ça, c'est faux de le dire. C'est intéressant parce que c'est un débat qu'on a retrouvé au XVIIIe siècle, hein, avec Locke et Voltaire qui répétaient le couple est naturel parce qu'il faut s'occuper de la progéniture, et Rousseau qui leur disait pas du tout. Hein, dans la nature, il y a des tas d'exemples où les adultes restent strictement solitaires et ça ne les empêche absolument pas de mener à bien la reproduction de l'espèce. Donc c'était un mauvais argument et Aristote tombe dans. Mais Aristote s'en rend compte et du coup il avance un deuxième argument. Il dit, en tout cas chez les humains, pourquoi est-ce que le couple est vraiment nécessaire mais d'une nécessité naturelle? C'est que justement les deux sexes n'ont pas les mêmes fonctions, n'ont pas les mêmes qualités. Et c'est là évidemment qu'il fait mal son travail de philosophe, parce que s'il faisait bien son travail de philosophe, il devrait mettre en question ce qui paraît comme une évidence dans sa société. C'est une évidence qui est évidemment socialement construite. Mais il devrait au moins l'interroger, mais il ne le fait pas. Il prend pour acquis ce qui est réalisé, mais je ne vais pas dire que c'est réalisé partout, c'est réalisé dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas, c'est-à-dire le cas des sociétés méditerranéennes, il y a un partage des tâches très 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 clair, entre la femme qui s'occupe de l'administration de la maison, donc elle est considérée par Aristote comme un être tout à fait libre et souverain dans les tâches qui lui sont réservées, et puis l'homme qui s'occupe des tâches plutôt extérieures, hein, donc rapporter les revenus nécessaires à la famille, et puis s'occuper de tout ce qui est politique et même intellectuel, bon, ça lui est réservé. Et en fait, évidemment, du coup, il y a aussi des qualités qui vont avec ces tâches. Ce ne sont pas les mêmes qualités qui sont nécessaires pour avoir une vie politique ou professionnelle et pour avoir une vie intérieure, hein, de bonne gestion de la maison. Donc forcément, on ne va pas demander les mêmes attitudes, on ne va pas louer, féliciter les mêmes comportements chez les hommes et chez les femmes. On ne va pas non plus les éduquer de la même façon puisqu'on n'attend pas la même chose d'eux. Et remarquez que là, Aristote dit quand même que ce qu'on attend des femmes varie en fonction du régime politique. Ça dépend justement de la place qu'elles peuvent avoir dans la cité. Il y a quelques exceptions quand même, hein, j'y reviendrai la fois prochaine, quelques exceptions où les femmes ont eu un tout petit peu plus de rôle public, disons, et n'ont pas été aussi limitées à la sphère privée. Et donc à ce moment-là, évidemment, si on leur donne un autre rôle, il faut aussi leur donner l'éducation qui va avec et leur demander de développer les qualités, hein, qui sont correspondantes. Mais lui n'est pas dans ce cas-là. Et donc il s'en tient à l'idée qu'elle on développe des qualités différentes. Donc, dans la relation affective, puisqu'il y a une relation affective, on n'est pas égaux. Et la femme se sent plutôt débitrice par rapport à l'homme qui est plus bienfaiteur pour elle que l'inverse. Elle dépend évidemment beaucoup plus de lui que l'inverse, donc elle se sent un peu débitrice. Et donc, elle doit, selon Aristote, aimer plus et aimer d'une forme de reconnaissance, tandis que l'homme, disons, est plus dans un certain agrément de la présence féminine et moins d'un attachement d'utilité. Donc, vous voyez, ça, c'est la théorie d'une amitié dans le mariage. Mais alors, vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'il considère ça plutôt comme une amitié et pas comme de l'amour, justement ? Alors, quand il évoque l'amour, il l'évoque d'abord à propos de la relation homosexuelle très particulière qui est développée en Grèce à cette époque et qui s'appelle la pédérastie, mais dans un sens très précis. Ça vaut la peine de le rappeler. Erastès, c'est l'amoureux, mais celui qui est amoureux vraiment d'Eros, quoi, hein, qui est passionné, qui a un désir sexuel passionné pour quelqu'un. Donc l'Erastès, c'est l'amoureux. Et Pède, ça vient de Païs, l'enfant. Mais alors ici, c'est pas l'enfant, c'est le jeune homme. Et c'était une institution sociale très répandue, même si elle n'était absolument pas obligatoire ni approuvée par tout le monde, mais très répandue et généralement acceptée, que les hommes d'un âge mûr puissent être amoureux d'un homme beaucoup plus jeune, disons fin de l'adolescence, début de l'âge adulte, l'âge des jeunes vers 18 ans, qu'on voit où ? On les voit surtout à la palestre. Hein. En fait, tous les hommes se rendent à la palestre où les jeunes font leurs exercices physiques. Et donc, comme vous savez, ils sont nus, hein, ils s'exercent nus. Et c'est très important, cette éducation physique des jeunes, puisque c'est aussi une préparation militaire, ça fait partie aussi de leur service militaire, enfin de leur instruction au service de la cité. Donc tous les jeunes passent par là. Et n'oublions pas que c'est une société qui est complètement où les femmes et les hommes sont complètement séparés. Il n'y a pas d'activité commune. Les femmes sont à l'intérieur, elles peuvent éventuellement se rendre visite l'une l'autre, mais elles ne s'attardent pas dans l'espace public. Les hommes sont dans l'espace public entre eux. Et donc, tout le monde passe à la palestre où s'exercent les jeunes, ils sont très beaux, voilà, il y a des amours qui se forment comme ça. Mais cette relation-là, elle est spéciale en ce sens qu'elle est aussi asymétrique. C'est-à-dire qu'on ne demande pas au jeune homme d'être aussi amoureux de l'homme âgé que l'inverse. En revanche, lui, ce qu'il gagne dans cette relation, c'est une certaine utilité, justement. Et donc, on rejoint les relations d'amitié par plaisir et par utilité. L'un a du plaisir, l'autre a de l'utilité parce que le plus âgé l'aide à faire son entrée dans la société. Lui donne des relations, des possibilités, des contacts nécessaires, en fait, des exemples. Il l'aide, il l'épaule hein, sur son chemin vers l'installation dans la société. Et donc on pense qu'il y a un certain équilibre là, que chacun y trouve son compte. Mais Aristote fait remarquer que ce sont des relations où il y a beaucoup, où il y a souvent beaucoup de récrimination d'un côté ou de l'autre, parce que chacun estime avoir moins que ce qu'il donne. Enfin bon, il estime que c'est vraiment pas. Enfin, lui n'approuve pas du tout ce genre de relation, pour cette raison que ça lui paraît pas. Ça lui paraît difficile de trouver son dû, enfin que chacun trouve effectivement ce qu'il estime qui lui est dû. Mais ceci nous permet de comprendre effectivement pourquoi il n'est pas possible d'avoir une véritable amitié de ce type, telle que celle qu'il loue le plus, hein, l'amitié qu'il valorise le plus, pourquoi elle n'est pas possible entre un homme et une femme ? Elle n'est pas possible parce qu'on ne se fréquente pas. C'est juste pour ça que ce n'est pas possible. On ne fait pas les mêmes activités, on ne se retrouve pas ensemble. Donc ce n'est pas possible que la relation se noue ou soit désirée. Un homme fréquente les femmes de sa famille et c'est tout, et son épouse, c'est tout. Donc ça ne peut pas se nouer. Mais c'est vraiment une impossibilité sociale et pas anthropologique, si vous voulez. Hein. Ce n'est pas dans la condition humaine que ce ne soit pas possible, c'est juste social. Alors qu'est-ce qu'il dit encore de l'amour, disons, en dehors de cette relation très particulière ? Il dit que l'amour, c'est un sentiment très très fort qui naît d'abord de la beauté, d'abord, et puis du besoin de voir la personne, d'être souvent avec elle, de la souffrance de son absence. Et donc à ce moment-là, bon, voilà, il décrit hein, un symptôme du fait d'être amoureux. Mais ça n'a pas l'air du tout d'être la base d'une union durable entre hommes et femmes. Et au contraire, cette union durable entre hommes et femmes, elle ne peut être que ce type de philia qu'il a décrite comme une certaine affection asymétrique, n'ayant pas exactement les mêmes motivations, mais qui peut néanmoins être très stable et très satisfaisante pour les deux. Donc on, vous voyez là en quoi il est quand même très tributaire de la forme sociale telle qu'elle était réalisée. Et quand je dis qu'il fait mal son travail de philosophe, il aurait pu se détacher ou du moins interroger cette forme sociale et se demander s'il n'y avait qu'elle qui était, par exemple, disons, naturelle à l'homme, comme il le dit. Hein. Il aurait pu d'autant plus que Platon l'avait déjà fait avant lui. Platon avait mis en question ce modèle-là en estimant que, dans la République, hein, que les femmes devaient avoir accès aux mêmes activités que les hommes et que tout devait se faire ensemble, en mixité. Donc, à partir de ce moment-là, évidemment, l'amitié devenait possible. On était compagnons d'armes, compagnons d'exercices, compagnons d'études, et donc tout était possible comme relation amicale. On pouvait parfaitement développer ça. Mais c'est quelque chose auquel Aristote n'est pas du tout sensible. Donc voilà, c'est une de ses limites. Voilà, une de ses limites. Un autre cas particulier d'amitié, mais très affaibli et très dilué, c'est la concorde. Donc c'est une amitié de type politique. C'est la concorde qui peut exister dans une cité entre tous les citoyens. Et la concorde, en grec, ça se dit homonoia. Il y a une grande place à Athènes qui s'appelle homonia. Hein, c'est ça, hein, c'est la place de la concorde. Homonoia. Donc on a d'une part nous, hein, la pensée, et homo semblable, on pense semblablement. Et il dit que ce n'est pas simplement le fait de partager des opinions, c'est surtout partager des opinions sur la vie en commun, sur la manière dont on doit organiser la vie en commun. C'est la capacité à délibérer et décider ensemble. Et il dit qu'une cité où il n'y a pas de concorde, c'est une cité où il y a plein de dissensions, donc où on n'arrive pas à se mettre ensemble, même si les institutions le prévoient. Et la raison en est que chacun ne voit que son propre intérêt. Chacun ne suit que son propre avantage et ne se soucie pas du tout de l'intérêt commun. Donc, la concorde nécessite le souci de l'intérêt commun. Mais le souci de l'intérêt commun, évidemment, il est donné par les institutions. C'est-à-dire, ça c'est pas Aristote qui le dit, c'est moi qui l'observe. C'est si Aristote peut dire avec tellement d'évidence qu'il faut avoir le souci de l'intérêt commun, et qu'il faut arriver à délibérer et décider ensemble. C'est parce qu'évidemment, il est dans une cité où on le fait. Il est dans une cité où l'Assemblée, elle est là, on est convoqué à l'Assemblée, on est censé y aller tous, et donc devoir se mettre d'accord sur les choses qui concernent tout le monde. Dans un régime politique où ça n'arrive jamais qu'on doive se mettre d'accord et décider ensemble de l'organisation de la vie commune, il n'y a pas besoin de ça. Il n'y a pas besoin de concorde, il n'y a pas besoin d'avoir même une idée de ce que serait l'intérêt commun. Et donc chacun, évidemment, ne voit que sa propre situation, puisqu'il n'a même pas l'occasion d'entendre les jugements des autres. Si vous n'avez même pas l'occasion d'entendre ce que les autres pensent de ce qui serait bien, comme organisation ou comme décision, vous ne vous rendez même pas compte à quel point l'opinion que vous avez est seulement la vôtre, ou est seulement vue de votre situation. Vous n'avez même pas ce soupçon que, étant dans une autre situation, on pourrait avoir un avis divergent. Vous n'êtes jamais exercé à saisir ce que pourrait être un avis différent et comment on peut les concilier dans un intérêt commun. Donc forcément, vous êtes incapable de ce genre de délibération et de décision en commun. Donc c'est clair que là, on voit aussi un exemple très frappant de l'influence de la politique sur l'éthique, hein, de l'influence du régime, du commun, de l'organisation commune, sur la formation du caractère de chacun. Comment voulez-vous former des caractères qui se soucient de l'intérêt commun s'ils ne sont jamais confrontés à cette nécessité ? Donc ça me paraît être vraiment une leçon importante. Donc voilà pour le chapitre de l'amitié, et il reste encore une autre données très très importantes dans la vie heureuse et au sein qui concerne l'éthique, c'est la question de la justice. La question de la justice, on l'avait juste un tout petit peu effleurée quand, dans le tableau des qualités, Aristote l'utilisait dans un sens très étroit pour dire la manière dont on acquérait les ressources, les biens nécessaires. Mais c'est plus vaste que ça, la justice. C'est beaucoup plus vaste que ça et ça mérite tout un livre. Il y a un livre entier de l'éthique qui est consacré à cette question. Et aussi, on va voir à quel point ça déborde sur la politique. La justice, dit Aristote, ça signifie deux choses. D'une manière courante, quand on demande ce que signifie le mot juste ou justice, on donne deux significations. Ou bien, ça signifie légal. Donc légal, la légalité. Je vais mettre peut-être la légalité. Ou bien, ça signifie l'égalité. Alors, pour une fois, c'est en français qu'il y a un jeu de mots, mais pas en grec, parce qu'en grec, les mots sont très différents. Donc la légalité, c'est fondé sur nomos, c'est nomimos. Donc on peut dire que ce qui est juste, c'est ce qui est nomimos, c'est-à-dire conforme à la loi, au nomos. Donc on dit, on agit justement si on agit conformément à la loi, à ce que dit la loi, à ce qu'elle impose. Et puis l'égalité, ou on pourrait dire aussi l'équité, c'est le terme isos, c'est tout ce qui est isos, égal, qu'on retrouve dans des tas de composés français, et tous les mots en iso. Donc c'est vraiment l'égalité quantitative. Et là, il commence par parler de la justice au sens de égalité ou équité. Et il distingue à nouveau deux formes de cette justice. D'une part, elle peut être distributive, égalité dans la distribution. Et d'autre part, elle est corrective. Donc elle répare ce qui aurait été une atteinte à la juste distribution. La justice distributive, donc elle concerne la répartition de quoi ? Ben, on pourrait penser la répartition des richesses, la répartition des pouvoirs, la répartition des accès, des droits. Mais en fait, d'après les exemples que donne Aristote, on se rend compte qu'il vise surtout la possibilité d'accéder au pouvoir politique. C'est en ça qu'il est toujours entre éthique et politique. Ça se voit de nouveau là. Et c'est surtout ça parce qu'il dit que cette justice distributive, elle est proportionnelle. C'est-à-dire, elle ne donne pas la même chose à tout le monde. Elle donne des parts égales aux égaux, des parts inégales aux inégaux. C'est d'ailleurs une formule de la justice qui est bien antérieure à lui. C'est quelque chose de très traditionnel de dire ce qui est juste, c'est de donner l'égal aux égaux et l'inégal aux inégaux. Mais comment on va déterminer qui est égal et qui est inégal ? Sur quels critères ? Et c'est là qu'il introduit un critère politique. Il dit que ça dépend des régimes. Si vous êtes en démocratie, sont égaux tous les hommes libres. Tous les hommes libres, il faut leur donner des parts égales. Mais de quoi ? Des parts égales de quoi ? En démocratie, on ne demande pas que tout le monde ait les mêmes richesses. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas exigé du tout par la démocratie. Mais on demande que tout le monde ait les mêmes droits politiques. Donc, le droit d'accès à toutes les charges, à toutes les responsabilités, à toute, évidemment, égalité devant la loi, enfin bon. Donc, on voit qu'il parle plutôt d'égalité politique, d'égalité dans les pouvoirs, les responsabilités, les décisions. Donc, en démocratie, le critère de l'égalité, c'est d'être un homme libre, c'est tout. Il n'y en a pas d'autre. En timocratie, c'est la richesse. Donc, c'est un régime censitaire. On a un droit en fonction de sa fortune. Bon, ça existait encore jusqu'au 19e siècle, le régime censitaire. Donc on a certains droits en fonction de sa fortune, et donc on dira, on est inégaux, donc on a effectivement des parts inégales, et c'est ça qui est juste. On estime que c'est ça qui est juste. Ceux qui établissent un régime censitaire, ils estiment que c'est ça qui est juste. Que tout le monde ne doit pas accéder aux mêmes possibilités, aux mêmes fonctions. Il y a un régime qui est basé entièrement sur le lignage, sur la noblesse de naissance. sur la noblesse de naissance. Donc si on appartient à des grandes familles traditionnelles, alors on se partage toutes les fonctions. C'est surtout lorsque les régimes sont très anciens et ont conservé une forme archaïque. Donc on conservait ce qu'ils ont hérité hein, depuis des... On peut dire l'Ancien Régime, en fait. Hein. Dans l'Ancien Régime, voilà, on a la noblesse qui se réserve une série de fonctions, mais uniquement suivant le lignage. Et puis, on a ce qu'il appelle l'aristocratie. Ce n'est pas celle-là qui est l'aristocratie. L'aristocratie, c'est la noblesse uniquement de valeurs réelles des individus. Donc c'est uniquement quand les égaux sont ceux qui ont la même valeur, les mêmes qualités. Et donc, on est aristocrate seulement si on est individuellement de ces très grandes qualités. Alors, le terme, évidemment, a été utilisé dans un autre sens, hein, a été souvent utilisé, au contraire, pour la noblesse de lignage. Mais ce n'est pas le cas chez Aristote. Quand il parle de traits aristocratiques dans un régime, c'est toujours des traits où on choisit le meilleur, mais le meilleur pour ce qu'il est vraiment en tant qu'individu. Et ce régime-là est caractérisé par l'élection. Puisque, évidemment, si on choisit le meilleur, on l'élit, c'est l'élu. Et donc, c'est une aristocratie. Hein, ce qui est le procédé de choix en aristocratie, c'est l'élection. Donc, l'élection n'a absolument rien de démocratique. Ce qui est démocratique, ce n'est pas l'élection, c'est que tout le monde soit pris sans choix. C'est que tout le monde accède à tout sans choix. C'est le fait de n'avoir aucun titre particulier. Donc évidemment, il faut voir, c'est très important quand on lit la politique d'Aristote de toujours, bon de toute façon il décrit tout ça en long et en large, mais il faut se méfier parce qu'on entend parfois, mais en fait Aristote c'est un aristocrate. Et c'est vrai qu'il dit souvent qu'il faut des traits aristocratiques. Oui mais dans quel sens? Et j'ai entendu quand même plusieurs personnes qui n'avaient pas envie du tout de faire d'Aristote un démocrate et qui disaient mais voyez tout ce qu'il dit contre la démocratie, oui mais quelle forme de démocratie? Et donc, on va détailler encore un petit peu la semaine prochaine. Mais donc, tout ça pour dire que la justice distributive, c'est de donner donc, proportionnellement aux égaux et aux inégaux en fonction de critères qui varient selon le régime politique. Et donc, remarquez bien ceci. Ça veut dire que ces critères-là, le fait que pour les uns, c'est simplement le statut libre. Pour les autres, c'est la richesse, ou bien le lignage, ou bien la valeur. Ces statuts-là, ils ne les justifient pas. Ils ne les justifient pas parce qu'ils sont justes. C'est l'inverse. C'est ça qui fonde le juste. Hein, donc, c'est très important à saisir, ça. On dit, qu'est-ce qui est juste? Ce qui est juste, c'est de donner à chacun selon sa place dans l'égalité. Mais sa place dans l'égalité dépend du critère hein, de richesse ou de noblesse ou de liberté. Mais donc, ces critères-là, richesse, noblesse, liberté, on ne dit pas qu'ils sont justes. On dit que c'est seulement si on s'appuie sur ces critères qu'alors la distribution est juste. Donc, dans les régimes, par exemple, disons censitaires, on dira il est juste de donner plus aux riches qu'aux pauvres. On dira c'est juste, mais on ne dira pas pourquoi il est juste, enfin on n'essaiera même pas de justifier pourquoi il faut donner plus aux riches qu'aux pauvres. Alors certains évidemment essayent de le justifier, mais ils ne le justifient pas au nom de la justice. Et ils ont raison parce que ce serait un cercle puisqu'on dit ce qui est juste c'est de respecter ces critères et ces critères sont ce qui est juste. Ça se tournerait en rond, il y aurait une justification circulaire. On ne peut pas le faire. Alors parfois, quand on le justifie, on dit, ben, ça c'est ce qu'on a, on lit parfois à l'époque moderne, c'est que seul le citoyen qui a du bien est vraiment intéressé à la sauvegarde de sa patrie, à la sauvegarde du pays, et que donc lui seulement va vraiment veiller à l'intérêt commun, parce qu'il a du bien et qu'il doit le défendre et que il ne va pas le... Si ça tourne mal, il ne va pas pouvoir partir en emportant son bien. Donc, c'est des justifications de type utilitaire, hein, de l'intérêt de la personne. Mais on ne dit pas, c'est parce que c'est juste. Et on ne pourrait pas. Donc, c'est très important de voir d'où vient la notion de justice. Au nom de quoi on dit que quelque chose est juste? Elle n'est pas ultime. Elle est elle-même fondée sur des critères qui sont antérieurs. Et que, ou bien on ne justifie pas du tout, ou bien on justifie bon, voilà, d'une autre façon. Et donc on rejoint ici un des aphorismes d'Héraclite qui disait, qui exprimait ça de manière très très crue, c'est l'aphorisme qui dit, qui commence par polémos, la guerre. C'est la guerre qui est le roi, c'est un masculin, le roi est le père de toutes choses. C'est lui qui fait le partage entre les dieux et les hommes, entre les esclaves et les maîtres. C'est la guerre. Autrement dit, si à un certain moment on a installé un régime où ce sont les riches qui décident, c'est le résultat d'un rapport de force. C'est le résultat de la force, bien sûr. Et même chose pour les lignages qui se transmettent de manière héréditaire les pouvoirs. C'est la même chose, c'est parce qu'à un certain moment, ils ont eu la force, ils se sont emparés, notamment des propriétés terriennes, et depuis lors, ils le gardent. Donc, Héraclite, il l'exprime très justement, c'est polémos qui compte dans tout ça. C'est le roi et c'est le père, c'est-à-dire c'est lui, c'est le combat, c'est la lutte qui a instauré ces relations et puis qui les maintient, qui règne dessus pour qu'elles se maintiennent. Donc, Aristote, au fond, n'est pas... Il ne le dit pas de cette manière-là, mais... Quand il fait l'histoire des constitutions, il montre aussi qu'évidemment ça s'est installé comme ça. Donc il faut pas, il faut se méfier d'une constitution qui prétend que sa distribution fondamentale, sa répartition fondamentale des pouvoirs repose sur la justice. Bon. Alors la correctrice. L'hémicorrective, enfin peu importe, c'est assez particulier au droit des contrats. C'est-à-dire quand un contrat a été passé entre deux particuliers et puis que l'un des deux ne fait pas sa part, il faut qu'un juge vienne faire la médiation entre les deux et vienne rétablir l'égalité qui a été bafouée. Donc c'est une justice, cette fois-ci, qui est d'une égalité non plus proportionnelle, mais... arithmétique, la même chose à tout le monde. Donc, quelle que soit la personne qui a été victime dans un contrat non respecté, on corrigera de la même façon. Ça, c'est la justice des tribunaux, c'est la justice à laquelle on a recours en cas d'infraction quelconque. C'est le cas aussi s'il y a un vol qui a eu lieu. Ben, un vol, évidemment, il a instauré une inégalité qui n'était pas juste, puisque quelqu'un a dérobé à quelqu'un d'autre. Et la justice corrective consiste à rétablir dans ses possessions celui qui a été spolié. Donc c'est pareil pour tout le monde. On ne se demande pas, en général, enfin, je ne connais pas un seul droit où on se demande si au fond celui qui a volé n'en avait pas plus besoin et si on ne devrait pas le lui laisser parce que ce serait plus juste de lui laisser le bien puisque l'autre en a déjà beaucoup. Je ne connais pas un seul droit évidemment qui dise ça. Mais on pourrait se demander pourquoi, bien sûr. On pourrait se demander pourquoi. Donc voilà pour la justice au sens de l'équité. On voit bien que effectivement, couramment, on appelle ça être juste. Quant à la justice, dans le premier sens, la conformité à la loi, c'est celle qui est décrite dans le texte 6 de vos documents. Vous allez voir comme elle fait bien le lien entre la totalité de l'éthique et la totalité de la politique. C'est assez extraordinaire comme c'est une notion totalisante. Donc, les lois prononcent sur tout, en visant l'intérêt commun, soit de tous, soit des meilleurs, soit des plus puissants. Alors les plus puissants, on précise, par la qualité ou par un autre critère de ce genre. Donc, on retrouve les mêmes différences selon les régimes. C'est pourquoi nous appelons juste, selon une première signification, donc c'est selon la signification de l'égal, les actions qui produisent et conservent le bonheur et ses éléments, les composantes du bonheur, dans la communauté politique. Donc ça, c'est bien une justice politique au sens d'une justice de la cité, justice de la cité dans l'instauration des lois. Mais la loi ordonne aussi d'accomplir les actes de courage, comme ne pas quitter le rang dans l'armée, ni fuir, ni jeter ses armes, ainsi que les actes de tempérance, comme de ne pas commettre d'adultère ni d'outrage, et les actes de douceur, comme de ne pas frapper ni calomnier. Et de même, suivant les autres qualités et défauts, elle ordonne les uns et interdit les autres. C'est ce qu'on a vu, quand Aristote, après avoir fait toute la liste des qualités qu'il faudrait acquérir, il a tout de suite dit « Le législateur quand il établit la législation fondamentale, il veille à ce que ce soit effectivement transmis aux citoyens, à l'ensemble des citoyens. Donc, la politique ordonne les mesures éthiques. Et il ajoute, de façon correcte quand la loi est établie correctement, plus mal quand elle est faite à la hâte. Donc les lois peuvent être mal faites. Il y a une parfaite reconnaissance de ça. Il n'y a pas de doute. Alors que chez Platon, en tout cas dans les dialogues socratiques, il y avait une certaine hésitation sur le fait que la loi pouvait être mal faite. Et il y a toute une discussion où Socrate essaye de défendre l'idée qu'une loi, si du moins elle mérite ce nom-là, doit être bien faite et doit être donc nécessairement juste. Donc on doit toujours avoir une égalité hein, entre juste et nomimos. Et par conséquent, doit toujours être obéi. Mais Aristote est beaucoup plus clair sur cette question en disant tout à fait clairement, en un certain sens, effectivement, le juste, c'est ce qui est conforme à la loi, mais toutes les lois ne sont pas bien faites. Donc ça veut dire que, qu'est-ce qu'on doit considérer à ce moment-là? Si une loi ordonne quelque chose qu'on estime être injuste, c'est un cas difficile, puisque d'une part, pour être juste, il faut se conformer à la loi, d'autre part, pour être juste, il faut, je veux dire par exemple, s'il y a une loi qui ordonne la délation, ça arrive. Qu'est-ce qu'on fait? On sait bien que ce n'est pas juste. Et pourtant, la loi l'ordonne. Alors là, pour Aristote, c'est évident que la loi, c'est une convention. Elle a été établie par des hommes. Elle peut être défaite par des hommes et on peut lui désobéir. Hein, c'est quelque chose de tout à fait clair. Il faut veiller à ce moment-là à changer de régime, à faire changer le régime autant qu'on le peut, si on n'est pas d'accord, évidemment, avec ses exigences. Et donc, il conclut, « Cette justice-là est donc la qualité totale, non pas en général, mais vis-à-vis d'autrui. » Cette justice-là, puisqu'elle ordonne d'avoir toutes les qualités, hein, elle demande d'être doux, d'être tempérant, d'être courageux, d'être... En fait, et on peut les prendre toutes l'une après l'autre. La loi, elle demande ça à tous les citoyens. Et donc, en fait, elle correspond à la vertu ou à la qualité totale du caractère, au fond. Si on voulait être vraiment conforme à la loi bien faite, on devrait être parfait hein, de caractère. Non pas, dit-il, en général, mais dans les relations vis-à-vis d'autrui. Parce que ça, quand même, c'est une petite restriction. La loi ne se soucie que des relations entre les personnes. Elle ne va pas vous imposer ce que vous faites tout seul. Si vous faites quelque chose tout seul, d'une manière plus belle ou plus laide, mais sans que ça ait aucune conséquence sur autrui, la loi vous laisse faire. Ça, c'est déjà bien. C'est uniquement les relations vis-à-vis d'autrui qu'elle régit, puisqu'elle est là pour installer la concorde. Alors, il y a une particularité de la justice qui concerne les échanges, puisque dans les échanges aussi, on recherche l'égalité. Donc, ce sera une particularité plutôt de cette justice-ci. Et il y a toute une digression du coup d'Aristote sur comment les échanges se justifient et comment ils se sont installés et comment les gérer le mieux possible. C'est presque un début, une première réflexion sur l'économie à la fois domestique et politique. Donc ce que dit Aristote, c'est que les échanges, c'est quelque chose de tout à fait naturel pour les êtres humains, parce qu'ils ne sont pas individuellement autarciques. Aucun individu ne peut à lui seul se procurer l'ensemble des choses dont il a besoin, même selon ses besoins les plus naturels, les plus élémentaires. Et donc, il est nécessaire d'avoir des échanges. Ces échanges, ils se sont d'abord faits selon le troc. Donc, quelqu'un avait un surplus d'une chose, l'autre avait un surplus d'autre chose, on en avait besoin réciproquement, donc on s'échangeait. Mais on ne s'échangeait pas n'importe comment. On a tout de suite fait une évaluation de la valeur relative des produits. Donc, il dit par exemple, si quelqu'un peut bâtir des maisons, un autre construire des chaussures et un autre produire des aliments, ils vont mesurer la quantité qu'il faut de chaque produit pour que ça soit équivalent. Et donc, avant même l'apparition de la monnaie, dit-il, il n'y a pas eu besoin, c'est pas ça la fonction de la monnaie. Déjà avant, on disait, par exemple, une maison vaut 5 lits. C'est son exemple. Alors c'est vrai que les maisons grecques, elles sont très simples, très très sobres. Hein, c'est quatre murs, une porte, un toit. Et donc, c'est pas des palais qui valent 5 lits. Mais une maison sobre, comme on est grec, ça vaut 5 lits. Mais évidemment, celui qui a besoin d'une maison, peut-être qu'il va essayer de donner l'équivalent à celui qui va lui construire sa maison, mais il ne va pas lui fournir 5 lits. Ça n'a pas de sens. Et surtout, celui qui a construit la maison, il n'a pas besoin de 5 lits. Donc, comment on va faire? Et c'est alors, évidemment, on voit la nécessité d'une mesure commune qui soit beaucoup plus facile à échanger, et donc l'apparition de la monnaie, mais d'abord sous la forme d'un métal dont un certain poids a une certaine valeur. Donc on va fixer un métal, fer, argent, or, dont chaque poids, et on va fixer des mesures de poids très précises qui équivalent à certains objets. Et puis, comme c'est aussi fastidieux de devoir chaque fois peser le poids, il va y avoir une autorité gouvernante qui décidera de mettre son sceau, d'imprimer son sceau sur le métal et de dire « celui-ci vaut cela, je le garantis en disant que c'est bien mon sceau de mon autorité ». Par exemple, on voit la tête du souverain qui dit « cette mesure est bien garantie, elle vaut vraiment autant » et on marque combien elle vaut. Donc on voit bien comment la monnaie s'est introduite pour une évidence de commodité des échanges. Et Aristote dit aussi ça permet les échanges dans le temps, différés dans le temps, parce que peut-être qu'aujourd'hui j'ai besoin d'une maison, mais toi aujourd'hui tu n'as pas besoin de, je ne sais pas moi, une tonne de blé que je te donnerai en échange, mais tu en auras besoin plus tard, donc je te donne déjà l'argent et plus tard avec cet argent tu t'achèteras ton blé. Donc tout ça évidemment c'est une évidence de commodité. Et ça ne pose aucun problème, c'est-à-dire ça ne change pas encore la manière dont on évalue la valeur des objets. Au lieu de dire une maison vaut 5 lits, on dira une maison vaut 10 mines et un lit 2 mines. La mine c'est une mesure monétaire grecque. Ça revient au même, ça n'a pas changé l'évaluation. Et donc cette évaluation, si vous avez en tête les questions de Marx, qui part d'Aristote d'ailleurs, vous allez dire oui mais c'est très important de savoir comment on évalue justement. Eh bien Aristote ne détaille pas comment on évalue. On le fait depuis toujours et c'est pour lui comme une évidence. On suppose qu'on évalue en fonction des matériaux. Matériaux, est-ce que c'est facile à se procurer ou pas? Et en fonction du travail à fournir évidemment pour produire l'objet. Mais ça reste pour lui implicite. En revanche, il s'interroge sur à partir de quel moment ce système a commencé à dévier. Ce système d'échange dévie et devient mauvais. Ce n'est pas avec l'apparition de la monnaie. C'est avec l'apparition du commerce. C'est avec l'apparition du commerce. Parce que qu'est-ce que ça change si on n'est pas simplement deux personnes qui conviennent de l'échange, mais qu'il y a une troisième personne qui devient intermédiaire? Il se fait que cet intermédiaire, il va vouloir gagner quelque chose sur l'échange. L'intermédiaire gagne quelque chose. Et le problème, c'est qu'avec de la monnaie, on se met à avoir la possibilité d'accumuler. On peut accumuler ce qui n'est pas vraiment possible avec des biens. Enfin, en tout cas, c'est limité avec des biens matériels, mais avec la monnaie, c'est illimité. Et donc, cette notion de illimité est un des critères principaux pour le moment où ça dévie. À partir du moment, dit Aristote, où le but de l'échange est d'accumuler de la monnaie de manière illimitée, alors là, on a complètement dévié de ce que devrait être l'échange, c'est-à-dire répondre à des besoins réciproques. On a dévié et c'est très mauvais. Donc il condamne totalement le commerce qui ne vise qu'à accumuler de manière illimitée. Et donc, il dit ce commerce aussi qui vise par conséquent à faire le maximum de profit aux dépens d'autres personnes. Parce qu'évidemment, tout ce qu'on accumule, les autres ne l'auront pas, donc c'est aux dépens d'autres. Et, dit-il, le comble de cet objectif d'accumuler, c'est le prêt à intérêt. Parce qu'alors, dit-il, c'est l'argent qui crée l'argent. Et c'est très intéressant parce que le mot grec pour intérêt, c'est tokos. Et tokos, c'est la racine de l'engendrement, de la progéniture. Le tokos, c'est le rejeton. Et donc, en fait, c'est l'argent qui crée son propre rejeton. L'argent crée lui-même l'argent dans le prêt à intérêt. Puisque simplement avec de l'argent, on récolte plus d'argent. C'est comme si l'argent faisait des petits. Voilà. C'est tokos. Tokos, c'est l'intérêt. C'est l'argent qui fait des petits. Et ça c'est... Il dit, mais à juste titre, on blâme les usuriers, les prêteurs à intérêt. C'est quelque chose, pour lui, totalement immoral. Bon, mais il est bien obligé de constater que c'est la marche... dans laquelle c'est vraiment engagé sa civilisation. On est en train de passer à une civilisation de marchands en Grèce, c'est tout à fait clair. Donc voilà pour cette digression d'Aristote à propos de la justice, toujours, hein, à propos de l'égalité, mais qui est importante parce que c'est la première réflexion sur laquelle après on va revenir sur cette question de qu'est-ce qui dans l'économie en quelque sorte est justifié. Qu'est-ce qui, dans une pratique économique, est justifié? Donc, évidemment, le besoin de produire ce dont on a besoin, d'échanger ce dont on a besoin et qu'on ne produit pas soi-même, tout ça est parfaitement justifié et naturel, mais à quel moment ça dérape et ça ne l'est plus? Voilà donc pour on a donc parcouru ce que c'était que la justice politique dans un sens très général, hein, donc où la loi commande d'avoir le maximum de qualité. Et cette justice politique, à nouveau, comme pour l'amitié, elle concerne des personnes qui sont dans une relation d'égalité entre elles. Forcément, puisque politique ne veut rien dire d'autre que de la cité, entre citoyens. Donc c'est une justice entre citoyens égaux. Mais qu'est-ce qui se passe alors pour la justice vis-à-vis des personnes inégales? On a à nouveau cette même interrogation. Et on a par conséquent une sorte de justice domestique vis-à-vis de ce que Aristote appelle des possessions vivantes. Des possessions vivantes. Donc, un maître de maison, il a... d'abord, il possède des animaux, parce qu'en général, dans un petit domaine, on a une famille, en général, un petit élevage. Donc, ce sont des possessions vivantes, les animaux. Et puis, il y a les possessions vivantes... Et nous allons tous être choqués, évidemment, mais bon, on le savait. Il y a les esclaves, bien sûr. Et il y a même les enfants. Alors, pour vous dire que ce n'est pas très péjoratif de dire possession vivante, parce qu'il y a même les enfants. Donc, pour les parents, les enfants, c'est leur possession, en somme. C'est mes enfants. Aristote les réunit, donc, ces trois types de possession vivante dans une même relation de justice, en disant... c'est un type très particulier qui est la protection, le fait de veiller sur ça. Donc, parce qu'on y a intérêt, parce que comme c'est une sorte de prolongement de soi, on a tout intérêt à veiller sur ça. Donc on veille sur ces troupeaux qu'on élève, on veille sur ces esclaves parce qu'on en a besoin, on veille sur ces enfants. Alors là, avec les enfants, il y a en plus la relation affective qu'on a vue. Mais il dit, personne n'aurait intérêt à être injuste envers ses possessions, puisqu'il se nuirait à lui-même. Et ça lui semble une sorte d'évidence, comme si personne ne maltraitait les animaux, les esclaves ou les enfants. On est étonné hein, que ça paraisse si évident que personne n'a intérêt à nuire à ses possessions vivantes. Mais bon, ça passe très vite comme ça. Et puis, il y a une justice d'un type encore un petit peu différent, de nouveau entre les époux, hein, l'homme par rapport à la femme, ce ne sont pas des égaux, la femme n'est pas un sujet politique. Donc, quelle justice peut s'installer entre eux? Et Aristote l'appelle une justice économique. Cette justice économique signifie... Bon, alors, je vous rappelle qu'économique, c'est composé sur oikos, sur le mot oikos qui veut dire la maison. Mais la maison au sens du domaine grâce auquel on survit, hein, grâce auquel on a une subsistance. La plupart des Grecs, ils avaient une subsistance terrienne, hein, paysanne. Même ceux qui vivaient en ville, ils avaient un petit domaine à l'extérieur de la ville et vivaient de ça. Donc, la justice économique entre les époux, c'est le fait qu'on se répartit les tâches économiques, tout simplement. C'est que, hein, ça rejoint ce qu'on avait vu tout à l'heure, c'est que chacun a, dans l'économie domestique, sa part, sa responsabilité, et donc il y a une certaine complémentarité qui s'installe, mais avec une inégalité dans la mesure où ben, voilà, le chef, c'est l'homme. Bon, on le sait aussi. On va revenir sur la question de l'esclavage, parce que c'est surtout dans la politique qu'Aristote vraiment le décrit en détail. On va voir quel est son type de justification, justement. Ça, il faudra se baser sur des textes. La semaine prochaine, on aura des textes vraiment de la politique là-dessus. Donc, le septième extrait que vous avez termine cette discussion de la justice en se demandant dans quelle mesure la justice politique est conventionnelle et naturelle. On avait vu cette question à propos des sophistes, donc les sophistes qui pensaient que la justice politique est complètement conventionnelle, c'est-à-dire qu'il y a une telle relativité par rapport au régime, par rapport au peuple, de ce qu'on appelle juste ou injuste, bien ou mal, qu'on peut dire que c'est pas du tout naturel, c'est uniquement un fait de culture ou une construction sociale. Les sophistes avançaient ça. Aristote, il est assez d'accord avec eux, il est en majorité d'accord avec eux, mais il voudrait quand même qu'il y ait quelque chose de naturel. Et c'est ça que essaye d'expliquer ce texte-ci. Vous allez voir que c'est un texte pas facile, un peu embrouillé, comme s'il n'avait pas les idées tout à fait claires, et surtout, c'est un texte extrêmement discuté. C'est un texte qu'on retrouve souvent dans les commentaires sur l'éthique. Bon, parce qu'il est essentiel. Le juste au sens politique est en partie naturel et en partie conventionnel. Et vous retrouvez nomikon, c'est aussi donc en rapport avec nomos, mais nomos au sens de convention, hein, puisque ça a ce sens-là. Est naturel celui qui a partout la même puissance et ne dépend pas de ce qui semble juste ou pas. Donc ne dépend pas de ce qui semble à chacun, c'est-à-dire de l'opinion, hein, donc du relativisme des opinions. Est conventionnel ce qu'il est indifférent au départ de faire d'une manière ou d'une autre, mais devient différent une fois qu'on l'a établi. Donc, c'est conventionnel, mais à partir du moment où on a établi que c'était comme ça, ça ne devient plus indifférent de le faire comme ça ou autrement. Il faut désormais le faire comme ça. Hein, donc c'est le sens de la loi. Par exemple, payer une rançon d'une mine, hein, une mine ou deux mines, au départ c'était tout à fait indifférent, mais une fois qu'on l'a établi, c'est ça qu'il faut respecter. Ou sacrifier une chèvre et non deux brebis, c'est égal. Et tout ce qui est institué dans des cas particuliers, comme faire un sacrifice à Brasidas. Brasidas, c'était un général spartiate, donc auquel on a rendu particulièrement d'hommage pour service rendu à l'armée. Mais bon, c'est, évidemment, ce sont des cas très particuliers. C'est totalement indifférent qu'on fasse un sacrifice à un tel ou à un tel. C'est circonstanciel, simplement. Et ce qu'il est sous forme de décret. Il y a une grande différence entre un décret qui obéit à une situation temporaire, on décrète ceci, donc on prend telle décision étant donné la situation, et ce qui est une loi qui est générale et est constamment en vigueur. Donc c'est très différent. Donc tout ça, c'est conventionnel. Cependant, il semble à certains que tout est de ce type. Tout est conventionnel. Parce que ce qui est naturel est immuable. Or, il n'y a rien d'immuable. Même les lois, même les constitutions, même le plus fondamental n'est pas immuable. Et possède partout la même puissance, comme le feu brûle ici et chez les Perses, tandis qu'on voit varier les choses justes. Or, il n'y a pas moyen que le juste soit tel, soit comme le feu, qui brûle toujours et partout. Il n'y a pas moyen que le juste soit tel. Donc vous voyez, il n'y a pas de uniformité, d'homogénéité, de généralité de la notion de juste. Ce n'est pas possible, elle est relative, cette notion. Sauf d'une certaine façon, et voilà donc la petite restriction, sauf d'une certaine façon. Et si ce n'est, donc encore une autre éventualité, si ce n'est que peut-être chez les dieux, il ne varie aucunement. Donc voilà, une sorte de précaution, hein, de parenthèse. Bon, peut-être évidemment si on est des dieux, la justice est absolue, mais bon. Mais chez nous, il y en a aussi une certaine forme naturelle, telle que, même s'il est tout entier susceptible de varier, il est néanmoins pour une part naturelle et pour une part non naturelle. Donc ça veut dire qu'on doit accepter que même quelque chose de naturel peut changer. Donc en quelque sorte, on prend une autre définition de ce qui est naturel. Ce qui est naturel, ce n'est pas seulement ce qui est immuable et partout semblable. C'est aussi ce qui varie, mais dans une certaine mesure. Voilà, il y a des choses naturelles qui peuvent aussi varier. Et puis alors, il a une phrase tout à fait surprenante pour nous. Lequel est naturel parmi ceux qui sont susceptibles d'être autrement, et lequel ne l'est pas, mais est conventionnel et fixé par contrat, si tous les deux peuvent varier, c'est clair. Comment ça c'est clair? Il n'a encore rien dit. Alors on est tout étonné parce que ni avant, hein, ni dans les livres qui précèdent, ni après, il n'a dit, ni dans d'autres traités, il n'a dit très clairement, c'était quoi cette forme naturelle de justice? Et on doit la chercher, et on doit aller la chercher aussi alors dans des passages où ça va très vite, où c'est pas très explicite. Alors il commence par dire un tout petit peu dans la suite. Dans d'autres domaines aussi, on peut appliquer la même distinction. La main droite est plus forte par nature, quoi qu'il soit possible à tous d'être ambidextres. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, ça veut dire que c'est juste pour montrer que le naturel peut changer. C'est naturel d'être droitier, mais enfin bon, il aurait pu dire il y a des exceptions, on est gaucher, il dit on peut être ambidextre. Donc c'est juste pour dire le naturel peut changer aussi. Ok, ça on avait compris. Les choses justes par contrat et par intérêt sont semblables aux mesures. Les mesures de vin et de blé ne sont pas les mêmes partout. Et alors il dit de nouveau quelque chose de très surprenant, mais elles sont plus grandes là où on achète et plus petites là où on revend. Oh là, on se dit, ça c'est vraiment une coutume étrange. Et donc on ne sait pas très bien si c'est quelque chose qu'il... si c'est une tromperie en fait qu'il dénonce, ou bien si vraiment c'est quelque chose d'admis et de conventionnel, qu'on n'utilise pas les mêmes mesures. En tout cas, en quoi est-ce que ça nous renseigne ? Ben, ça ne nous renseigne pas tellement. Hein, on a de nouveau juste une confirmation que dans ce qui est conventionnel, ça peut varier. On le savait. Alors c'est seulement dans la dernière phrase qu'on a une petite indication. De la même manière, les choses justes, non pas naturelles mais humaines, ne sont pas les mêmes partout, puisque les constitutions politiques ne le sont pas non plus. Donc on vient de voir que le juste varie en fonction des constitutions politiques. Mais il y en a une seule, se réfère à constitution, on reprend le mot constitution, il y en a une seule qui est partout conforme à la nature et la meilleure. Alors ce partout, qu'est-ce qu'il veut dire ? On peut le comprendre de deux façons. Ou bien ça veut dire qu'il y en a une seule qui vaut pour tous, qui serait la meilleure pour tous, ou bien ça veut dire, dans un sens distributif, qu'il y en a chaque fois, donc dans chaque région, pour chaque peuple, une qui est la meilleure et qui est naturelle. Et c'est ça le sens que veut dire Aristote. Ça on le sait par d'autres textes, que... pour lui, il y a chaque fois une forme de constitution qui est la meilleure en fonction de l'état de la civilisation où on est, où on se trouve. Et justement, pour des raisons aussi d'égalité. C'est-à-dire, il dit dans un peuple où il y a des très grandes différences de qualité entre les groupes, entre les sous-groupes, les divisions, les classes, si on veut, il ne faut pas instaurer une démocratie parce qu'il y a trop de différences, ils ne sont pas égaux. Alors d'où vient cette inégalité ? Évidemment, elle vient de l'histoire, il le sait bien. Mais donc, il prend justement compte de l'état historique d'une certaine société. Si on est dans une certaine époque historique, il ne faut pas vouloir instaurer, alors que jusque-là, on a une très forte inégalité, il ne faut pas vouloir instaurer immédiatement une égalité. Ça ne marchera pas si les gens sont trop inégaux de par leur histoire. Ça fait penser, évidemment, sur les... la volonté de transformation rapide, par exemple, d'un régime en un autre. Et donc, comme vous voyez, pour aller plus loin dans cette question, on est obligé de passer en revue les régimes politiques, justement, et pourquoi chacun est meilleur dans quelle situation, et savoir si finalement, je vous dis que quand même ça va arriver, on aura quand même un critère pour savoir en quoi il y a un régime qui est plus juste par nature. On va le savoir quand même, finalement, dans la politique, après avoir parcouru donc, les caractéristiques de tous les régimes. Donc je le laisse pour la fois prochaine. Alors je vais juste encore conclure sur, donc pour terminer les ouvrages d'éthique, conclure sur la question qui ouvrait ces ouvrages, et qui était laquelle des trois vies est-ce qu'on doit plutôt choisir ? La vie de plaisir, on l'avait écartée, mais parmi les deux restantes, est-ce que c'est plutôt la vie politique, active, dirigée vers la cité, ou est-ce que c'est plutôt la vie intellectuelle, scientifique, de recherche ? Et on a vu une grande valorisation jusqu'ici de la vie politique, d'autant plus que Aristote a fait cette distinction entre la politique au sens courant du terme, au sens de la gestion des affaires courantes, une politique exécutive, une politique par décret. Et puis, ce qui était beaucoup plus fondamental, qui était la politique du nomothète, celui qui instaure vraiment le cadre et qui répartit ce à quoi chacun a droit, répartit l'organisation des richesses, des pouvoirs. Donc on a vu que celle-là, elle demandait vraiment une phronesis. Il y a une phronesis politique qui nécessite la réflexion sur ce qui est le mieux dans les activités humaines. Donc on a un homme aux têtes qui doit être, on dirait presque philosophe, hein, comme chez Platon, sauf que c'est une philosophie pratique, mais qui doit être au plus haut niveau de la réflexion pratique, qui doit vraiment avoir bien compris ce que c'est que les meilleures activités humaines et comment les promouvoir. Donc on a l'impression qu'il y a une très grande valorisation de ce type de vie-là. Et pourtant, dit Aristote, il lui manque une seule chose, c'est que ce qu'il y a de plus beau dans l'univers, ce n'est pas l'homme. Or, cette politique-là, elle est dirigée entièrement vers les affaires humaines, vers le développement humain. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus beau dans l'univers, l'homme. Ce qu'il y a de plus beau dans l'univers, c'est ce qui est éternel, c'est ce qui est immuable. Et donc, ce sont les astres, c'est ce qui existe toujours et nécessairement. Ce n'est pas nous. L'humain, il passe, hein, déjà individuellement on passe, hein, on passe très vite, mais même comme espèce, peut-être qu'on va passer, mais ça non, ça restera toujours. Et peut-être qu'il y a une sorte d'exaltation chez Aristote devant le ciel étoilé, hein, comme chez Kant. On sent ça parce qu'il dit qu'il vaut mieux étudier ce qu'il y a de plus divin. Donc même s'il faut exercer son intelligence, hein, le nous, la phronesis et tout le reste des facultés, les mêmes facultés pour être un très bon homme aux têtes, pour s'occuper au mieux des affaires humaines, malgré ça, malgré le fait que ces mêmes facultés qui sont en jeu, appliquer son intelligence à ce qui est plus divin vaut mieux. Et y compris en considérant que l'intelligence est ce qu'il y a de plus divin en nous. Donc ça aussi, ça se trouve à la fin de l'éthique, cette idée que notre intelligence c'est ce qu'il y a de divin en nous. C'est notre partie divine, mais pas au sens où elle serait donnée par les dieux. Hein. Ce n'est pas dans ce sens-là. C'est ce qu'il y a de plus beau, de plus grand, de plus... Mais si elle s'attache à ce qui est de plus divin à l'extérieur de nous, c'est encore mieux. Donc étudier l'univers, ça vaut mieux qu'étudier seulement les affaires humaines. Et il donne encore d'autres arguments en faveur de la vie intellectuelle. Il y a le fait que cette activité-là, elle peut être plus continue. On peut étudier pendant beaucoup plus longtemps que faire de la politique. Enfin, au sens où on peut passer toute sa journée à étudier, on ne se lasse pas. Alors que l'action a plus de limites. Elle donne plus de plaisir. Elle est plus indépendante et plus autosuffisante. Alors ça, c'est sûr, puisqu'on peut faire beaucoup plus tout seul, évidemment, une vie scientifique et d'études qu'une vie politique qui implique, évidemment, tout le temps d'être en rapport avec d'autres. Donc on n'est pas du tout indépendant dans ce cas. Et aussi, chacun s'identifie plus à son intelligence qu'à n'importe quelle autre faculté ou partie de lui-même. Donc, chacun s'identifie à son intelligence. C'est intéressant ça, parce qu'on voit qu'intelligence veut dire presque conscience, en fait, dans ce cas-là. C'est, quand on dit « qui suis-je »,« qu'est-ce qui est moi ?» Quand je dis « je »,« moi », c'est qui, c'est quoi par rapport à moi, hein, par rapport à toutes les parties qui me composent, c'est mon intelligence. Moi, c'est mon intelligence. Bon, mais c'est vrai que c'est presque conscience, effectivement. Mais bon, on pourrait dire aussi à ce moment-là que l'intelligence, elle est présente dans l'activité politique, ça, il l'a reconnu. Donc finalement, en définitive, ce qui favorise le choix préférentiel de la vie intellectuelle, c'est le fait que l'homme n'est pas la meilleure chose dans l'univers et que étudier ce qui est meilleur que lui vaut encore mieux. Et il prend l'exemple d'Anaxagore, hein, qui avait dit ça, que c'était la vie la plus belle, c'était cette vie-là. Quoi. Pour lui, ce qu'il y avait de plus beau, c'était étudier les étoiles. Et donc voilà, c'est cette exaltation qui a le dernier mot. Mais on discute entre spécialistes pour savoir si cette vie-là est exclusive, c'est-à-dire s'il faut se consacrer entièrement à cette activité, ou si cette vie est inclusive, c'est-à-dire qu'il faut donner une place à cette activité, mais pas toute la place. Il faut aussi intégrer toutes les autres activités dont il vient de dire en long et en large qu'elles étaient propres à l'humain. Et bon, il semble... Alors, je défends absolument l'interprétation inclusive, sinon tout le reste de l'ouvrage n'aurait aucun sens. Hein. Tout le temps qu'il a passé à dire c'est le proprement humain, c'est une activité extrêmement belle et importante, n'aurait aucun sens hein, si finalement il ne fallait pas la faire. Et pour une deuxième raison encore, qui est qu'il dit « la phronesis donc, doit donner des ordres en vue de la théoria, en vue donc, de l'étude scientifique intellectuelle. La phronesis doit donner des ordres, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, ça veut dire que toute l'organisation de la vie pratique doit faire en sorte de favoriser la vie intellectuelle. Donc aussi bien dans le domaine privé que dans le domaine public. Donc en privé, ça veut dire qu'on doit s'organiser sa vie de manière à avoir du temps à consacrer à l'étude, et peu importe comment on s'organise, mais ça veut dire qu'on doit gérer notamment son besoin de ressources de telle façon qu'on garde du temps pour la vie intellectuelle. Et du côté public, de la phronesis publique, ça veut dire que la cité doit être organisée de telle façon que la vie intellectuelle soit favorisée. Donc c'est les deux. Les deux phronesis doivent se mettre ensemble, doivent converger pour que la vie intellectuelle soit possible. Mais ça ne veut pas dire pour qu'elle soit exclusive, évidemment. Ça n'aurait pas de sens. Donc voilà pour cette éthique qui est caractérisée, je pense, par cette complétude, par ce caractère englobant par rapport à tous les biens, par rapport à tous les plaisirs et à toutes les qualités. Et donc la semaine prochaine, on enchaîne sur la politique. Oui.
Je m'interroge un peu sur la notion de vérité chez Aristote. Autant on suit la notion de vérité dans la recherche scientifique, dans tout ce qui est science, autant on peut s'interroger sur quels sont les critères de vérité dans ce type de raisonnement.
Alors justement, tout au début, quand il présente le domaine pratique, il l'oppose au domaine théorique en disant que dans la théorie, il y a la motivation, c'est la recherche de la vérité, alors que dans le domaine pratique, la motivation n'est pas dirigée vers la vérité, mais vers l'action. Donc ce qu'on cherche, c'est l'action bonne, et le bon n'est pas nécessairement la même chose que le vrai. Dans ce cas-là, le bon est autre chose. Mais néanmoins, ce qui est très intéressant, c'est qu'à un certain moment, il introduit quand même l'idée de vérité à propos du raisonnement pratique. Et il dit que ce qui est vrai, c'est le raisonnement correct, donc au sens du syllogisme qu'on a vu, respecter la bonne construction de ce syllogisme, c'est atteindre la vérité pratique. Mais on voit que c'est une vérité d'un tout autre type. C'est uniquement une vérité, en quelque sorte, de bonne conformation du raisonnement. Mais ce n'est pas une vérité qui nous dit quelque chose sur le monde extérieur, pas du tout. Et c'est pas non plus, ça sera non, pas non plus la saisie d'un absolu, de quelque chose qui est toujours tel, comme la vérité scientifique, elle n'est pas relative à chacun. Chacun ne peut pas dire « pour moi, il me semble que ». Là bien, on pourra toujours dire « pour moi, il me semble que », mais il y a quand même un raisonnement bien construit et un raisonnement mal construit. La phronesis peut se tromper, elle peut mal construire son raisonnement, se tromper sur ses prémices ou se tromper sur la conclusion. Donc il y a une sorte de vérité au sens de la construction du raisonnement. Donc il y a quand même une certaine technique. C'est pour ça que la bonne action, elle met en jeu aussi une capacité intellectuelle et raisonnante. Il faut savoir raisonner pour bien agir. C'est pas juste une sorte de dressage, comme on pourrait dire une morale, c'est tu fais toujours ça, tu fais toujours ça. Non, c'est une réflexion, il y a un raisonnement qui est nécessaire. Donc il y a les facultés dites anoéthiques qui interviennent, les facultés de pensée, de réflexion qui interviennent. Voilà. Donc en ce sens, dans un sens vraiment dérivé de vérité, on peut dire qu'il y a une certaine vérité du raisonnement pratique.
Justement, à ce propos, tout au début, tu as dit que du point de vue du mensonge, et en même temps, on trouve ça du point de vue de son attitude par rapport à la loi, qu'il faut une intelligence en fait pour l'interpréter. Et donc, c'est assez contrasté par rapport à Kant qui dit qu'il ne faut jamais mentir, qui impose ça comme vraiment une loi fondamentale, et qui dit même que si quelqu'un se cache chez vous et qu'à un moment on vient pour le rechercher, ben, vous ne pouvez pas mentir, même si vous pensez que cette personne-là, il faut le protéger. Il y a un impératif de ne pas mentir qui dépasse tout. Donc ici, c'est intéressant que 2500 ans avant, Aristote, il ait une réflexion quand même beaucoup plus relativiste, basée sur l'intelligence, sur l'individu.
Oui, basée sur l'appréciation de la situation. En fait, c'est vraiment une application à la situation. Et ça fait la grande différence, je dirais, entre une morale qui est simplement une transmission d'impératifs et d'ailleurs on ne l'appelle pas une morale, enfin c'est une éthique, qui est une appréciation en fonction de valeurs, bien sûr, mais une adaptation de ces valeurs aux circonstances, et donc qui demande tout un effort d'adaptation, précisément, qui demande une appréciation individuelle, et où, effectivement, il n'y a pas d'absolu. C'est-à-dire, il y a, comme il dit, il y a beaucoup de moyens de se tromper, mais c'est difficile de trouver ce qui est vraiment la meilleure attitude. Et donc, chacun est beaucoup plus renvoyé à ses responsabilités. On n'agit pas mécaniquement, hein, comme un dressage moral, on est renvoyé à sa responsabilité. Il faut qu'on apprécie soi-même. C'est une grande différence. Et c'est un peu ce qu'on trouve encore dans la distinction actuelle entre morale et éthique, même si ce n'est pas exactement ça, mais il y a tout de même cette idée que la morale, c'est la transmission d'une norme, et que cette norme n'a pas à être discutée, mais simplement à être suivie, obéie. Et tandis que l'éthique, c'est une construction plus individuelle. Et c'est ça qu'on trouve chez Aristote, hein, quand même une construction de soi. Alors, ce n'est pas totalement relativiste, puisque quand même, il y a des critères du bon et du mauvais. Hein, il y a des critères qu'on essaye de rendre généraux, quand même. Ce n'est pas chacun qui décide que ce qu'il fait est bien.
C'est critique, en fait, le mot relativisme était mal choisi, c'est critique.
Oui, mais c'est vrai que sinon, c'est vrai qu'il y a un certain relativisme, de toute façon. Mais il est limité aussi par une exigence de construire collectivement des valeurs, quoi. Il faut aussi qu'on construise collectivement des valeurs, sinon c'est impossible de vivre ensemble. Voilà.
Il fait appel aussi dans notre texte, il me semble que c'est dans les valeurs morales, mais je ne suis pas sûr. Justement, dans les non-dits du texte, du dernier texte qu'on a vu ensemble, c'est qu'il parle de la justice légale et de la justice, égalité, équité, naturelle. Donc, et sur ce point de naturel, la justice naturelle, c'est quoi? Et donc, je crois que dans mes souvenirs, il fait appel à Parménide quand, dans un de ses poèmes, il parlait des animaux, de la justice envers les animaux. Et donc, Parménide en vient à se dire que non, on n'est pas juste envers les animaux, parce qu'on les tue pour les manger, ou alors on les élève et on les... Et donc, ça fait appel aussi à la discussion d'aujourd'hui.
Oui.
Et il dit aussi, voilà, donc on les tue, alors Parménide s'est empêché, à la suite des Pythagoriciens, mais il explique bien mieux que les Pythagoriciens qui sont dans un dogme, qui disait qu'on ne rend pas justice aux animaux si on les tue, donc on devrait les laisser vivre. Et en écho à ça, il fait aussi appel à la tragédie grecque, et notamment à Antigone, au niveau de ce qui se passe dans la tragédie. Et Antigone donc s'oppose à la justice du pouvoir en disant « moi je veux donner une sépulture à mon frère ». Et donc à ce moment-là, il y a le problème de la remise en cause du pouvoir en place. Et donc à ce moment-là, il donne foi à cette justice naturelle plutôt qu'à la justice conventionnelle qui est régie sur la loi, donc la grande constitution. Donc à ce moment-là, c'est la notion de liberté. Que fait l'individu face à la cité qui a institué une norme, une loi qui est faite à tout le monde, c'est-à-dire que, il vient de le dire dans les textes qu'on a vus ensemble, c'est-à-dire que la loi s'occupe aussi du bien, du mal, de la douceur, des vertus. Donc à ce moment-là, quelle posture doit-on avoir face à une loi qui nous impose des impératifs? Donc à ce moment-là, c'est un peu la raison d'État. Sur l'Antigone, c'est la raison d'État. Alors, ayant dit ça, il faut aussi, sur le parallèle entre justice, l'égalité ou justice conventionnelle, et égalité, équité. Bon, moi je trouve qu'entre égalité et équité, ce n'est pas équitable. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il vient plus, dans l'éthique, il en revient à dire qu'en fin de compte, la justice, c'est l'équité. Donc il reprend un peu, peut-être, en contradiction avec la loi constitutionnelle. Si j'ai une question à dire, c'est comment, dans un cadre de vie de la cité, comment être contre et être juste aussi. C'est le problème fondamental. Le problème fondamental, c'est la liberté. Parce que la justice, quelquefois, c'est un carcan aussi. Voilà, c'est un mot. C'est pas tellement une question, mais c'est un
problème. Oui, oui, merci pour cette longue réflexion. Ben oui, bien sûr. Mais d'abord, par rapport aux animaux, il y a un passage de la politique où Aristote justifie qu'on les tue pour les manger. C'est-à-dire qu'il dit que la nature, c'est quelque chose de tout à fait naturel, que dans la nature, on voit bien qu'il y a des animaux qui sont herbivores, d'autres carnivores, d'autres omnivores, et que tous ces modes d'alimentation sont naturels. Et qu'il n'y en a pas un, donc, qu'on peut rejeter comme n'étant pas naturel. Et il dit que chez les humains aussi, on voit qu'il y a des très grandes différences d'alimentation. Alors il détaille, hein, il y a ceux qui vivent d'élevage, ceux qui vivent d'agriculture, de pêche, de chasse, de rapine même. Mais pour lui, tous ces modes d'assurer sa subsistance sont naturels, donc légitimes. On ne peut pas estimer que l'un d'eux est à bannir parce qu'il ne serait pas naturel. Donc ça ne le gêne pas qu'on tue des animaux pour assurer sa subsistance. Il ne voit aucun problème de justice là-dedans. C'est quelque chose de tout à fait naturel. Par contre, comme on l'a vu, le fait de bien les traiter, de veiller sur eux pendant qu'ils sont vivants, ça c'est une question de justice, au sens de justice par rapport à ses propres possessions, quoi, hein, donc d'intérêt pour soi-même au fond. Donc ça c'est peut-être le moins important, mais le plus important c'est effectivement quand on a deux types de justice qui s'opposent. D'une part la justice légale, et d'autre part, une justice qu'on estime plus fondamentale, comme Antigone estime plus fondamentale les lois qu'elle veut suivre, les lois non écrites, ou les lois divines, ou les lois, alors elle ne dira pas naturelles, mais on peut dire aussi qu'il y a, enfin on l'a dit plus tard, qu'il y avait des lois naturelles qui s'opposent aux lois imposées, positives. D'abord, il est un fait que ce à quoi Antigone s'oppose, c'est un décret. C'est-à-dire que c'est un décret qui a été établi spécialement pour la situation présente, c'est-à-dire qu'on n'interdit pas d'enterrer tous les morts, bien sûr. On interdit d'enterrer ceux-là, hein, enfin celui-là, qui est venu attaquer la cité, parce qu'il a attaqué la cité. Donc déjà, c'est tout à fait conventionnel de manière universellement reconnue, puisque c'est un décret. Et ce n'est pas une loi générale. Mais ça peut... Il se pourrait qu'il y ait une loi générale à laquelle on veuille s'opposer pour des raisons qu'on estime plus fondamentales. Et donc là se pose au fond l'opposition entre ce qu'on appelle la légalité et la légitimité. Est-ce qu'on peut dire que la légalité n'est pas légitime? Mais ça doit se faire au nom d'un principe supérieur. Et donc il faut trouver un principe supérieur. Et en général, jusqu'ici on n'en a jamais trouvé que deux. Ou bien c'est le divin, ou bien c'est le naturel. Mais on n'a jamais trouvé quelque chose de plus, quelque chose de supérieur à la généralité de l'État, si ce n'est ces deux-là. Alors, du côté du naturel, on peut évidemment invoquer, on invoque la plupart du temps, non pas la nature en général, mais la nature humaine. C'est-à-dire, on va dire, c'est un trait humain de vouloir faire telle et telle chose et de ne vouloir pas en faire une autre. Par exemple, on dira la solidarité d'espèces. C'est un trait humain. Donc vouloir sauver quelqu'un de mon espèce, c'est quelque chose qui m'est totalement naturel. Et donc je le sauverai en dépit d'un impératif qui me vient d'un pouvoir en place. Je le sauverai. Ou je m'opposerai à une destruction, je m'opposerai à... Voilà, donc c'est toute la base de la désobéissance civile, hein, c'est vraiment ça. C'est-à-dire au nom de quoi une désobéissance civile peut se faire? Il faut qu'elle trouve un principe supérieur. Et donc on a pu s'opposer forcément à la délation au nom de la fraternité ou au nom de la solidarité humaine, à l'expulsion d'autres gens au nom, même chose, hein, de la fraternité humaine, de la solidarité. On peut s'opposer à beaucoup de loi générale, et donc en fait en général la désobéissance civile ça porte sur ce genre de choses là forcément. Et donc c'est très important, effectivement, de pouvoir dire qu'il y a une justice naturelle. C'est très important de pouvoir le dire, ouais, de pouvoir le défendre. Mais en sachant bien que ce n'est pas une loi de la nature en général. C'est, on dit qu'il est intrinsèquement humain, ou le meilleur de l'humain est là. Parce que bon, l'impératif politique, il est aussi humain, évidemment, mais on dira que ce n'est pas le meilleur de l'humain.
Dans le même ordre d'idées, une digression de justice, je crois que c'est Proudhon qui disait que la propriété, c'est du vol. Mmh. On pourrait imaginer que le vol, c'est la restitution.
Oui, oui, bien sûr. Et oui, pourquoi il disait ça? Mais c'est exactement pour cette idée que en fait, comment c'est venu historiquement? Enfin, d'une part, c'est venu historiquement au départ par le vol. Hein, comment ça se fait qu'il y a eu la répartition de la propriété telle qu'elle se trouve à partir du 19e siècle? Ben alors, c'est venu ou bien par des conquêtes, et puis donc les conquérants se sont partagés le terrain, ou bien c'est venu par du commerce, hein, le fait. Si on reconnaît que le commerce tombe très vite dans la spoliation aux dépens d'autrui, donc c'est une forme de vol, bien sûr. Si le bénéfice dépasse démesurément l'action qui a été faite, enfin ce que justifie le travail ou l'activité, bon, bah, évidemment que c'est du vol. Donc oui, la propriété, très souvent, elle est le résultat d'un vol. Et en plus, évidemment, tout ce que possède quelqu'un ne peut pas être utilisé par quelqu'un d'autre. Donc c'est comme si, de manière constante, ce qui était la propriété de quelqu'un était dérobé à tous les autres. Donc si cette propriété dépasse ce dont il a strictement nécessaire, ce dont il a strictement besoin, hein, ce qui lui est vraiment nécessaire, c'est un vol par rapport aux autres. Il faudrait le mettre à la disposition des autres puisque ça dépasse ses besoins. Donc tout ça est parfaitement justifié et argumenté. Et donc, à ce moment-là, évidemment, voler une propriété excessive, c'est une restitution, c'est une correction, c'est une justice correctrice. On pourrait dire. Mais bon, tout ceci, évidemment... Oui, c'est la guerre de tout ce qu'on peut. Voilà, alors le problème, c'est exactement celui-là. Il ne faut pas que cette correction soit laissée à chacun. Sinon, effectivement, c'est la vendetta, la guerre de tous contre tous. C'est chacun qui va constamment... intervenir par... Donc ça, c'est pas vivable comme situation. La seule situation vivable, c'est que au niveau politique, on redistribue les choses. C'est qu'on rectifie la distribution de départ sur des critères qu'on estime beaucoup plus justes. Mais... Pour ça, il faut y avoir accès, évidemment.
Justement, pour rebondir là-dessus, en disant que sur la proportionnalité de la justice, il y a aussi à l'époque ce qui se passait souvent, c'était la loi du talion, c'est-à-dire la vengeance. Et alors on n'en a pas parlé, mais donc sur la justice et la proportionnalité, c'est comment rendre, je le dis, c'est-à-dire c'est l'équité qui rétablit tout ça. Parce que l'équité, pour moi, c'est pas l'égalité. Je m'explique, c'est-à-dire qu'en fin de compte, l'équité, c'est pas simplement la restitution ou le partage ou la distribution à part égale simplement par une quantité, c'est-à-dire un homme égal à telle proportion. Parce qu'on ne parle pas des besoins aussi. Des besoins et surtout, comment dire, de ce qu'on donne à la cité. Donc à ce moment-là, il y a aussi, au niveau de la justice, il y a un débat qui est pour moi profond, c'est-à-dire qu'il est. Bon, complexe, je parlais quand on dit complexe, c'est qu'on ne peut pas peut-être le solutionner. Mais il est profond dans ce sens qu'il doit être précis. Et toujours pareil, ben, là on en revient à ce que dit Aristote, on lui reproche, c'est la finalité, c'est le but. C'est en quoi on va faire, pour quelle raison on va faire ça. Et donc je pense qu'il y a comme un écho entre les vertus, bon la justice en est une aussi, mais donc entre le. On en vient au débat actuel, c'est toujours, Aristote est en cela, il est emblématique à ce que les questions qui sont posées il y a 2500 ans sont actuelles, ils sont même je dirais, ils sont brûlants d'actualité, parce que comment bien vivre ensemble dans la cité, ce qui se passe. Alors à ce propos, il y a un terme grec que j'arrive pas à toujours poser, c'est tout ça. C'est Eusen, existe bien Eusen, le mot Eusen.
Oui. Zen, oui.
C'est pas simplement du japonais. Du
ah non, le zen, c'est pas seulement japonais. Non, c'est... Je vais y venir. Ouais. Et puis, alors, zen, c'est un zetain, donc en fait, on le prononce DZ. Zen, et même un E long. Zen, donc E, c'est bien. Et zen, c'est vivre. Zen, c'est vivre. Donc, Zoé, c'est la vie. Zen, c'est vivre. Donc, c'est le vivre bien. Et de fait, c'est une clé de la politique, le vivre bien. Donc, on y reviendra aussi la semaine prochaine. Mais c'est vrai que le fait de faire une répartition en fonction des besoins, c'est aussi une justice distributive qui fonctionne selon une égalité proportionnelle. Donc on va donner proportionnellement aux besoins, plus aux grandes familles, moins aux petites familles. C'est de nouveau une proportionnalité, en fait. C'est pas ça que tu voulais dire ?
Non, oui, si, bien sûr. Non, il y a ça, mais il y a aussi une notion de qualité.
Oui.
C'est-à-dire qu'on ne donne pas la même chose à chacun aussi. Ouais, bon, ça tombe dans le débat.
Oui. Oui, mais alors ça, c'est... Oui.
Il y a ça aussi.
Effectivement, le fait d'avoir une certaine intention, c'est très important pour Aristote. Effectivement, on l'a vu à propos des vertus hein, ou des qualités du caractère. C'est-à-dire que... si on est généreux, par exemple, pour se faire bien voir, on n'est pas vraiment généreux. L'intention est importante. Donc, ce n'est pas la quantité d'argent qu'on va donner à quelqu'un qui compte toute seule. C'est aussi, effectivement, comme tu disais, pourquoi on la donne. Et si on la donne parce qu'on trouve que c'est un beau geste, parce que c'est beau, alors bien sûr, ça va peut-être aussi aider la personne, donc c'est aussi utile pour elle. Mais c'est un beau geste, justement. Et on ne le fait pas, évidemment, pour avoir un avantage... par ailleurs, se faire bien voir, avoir des remerciements. Et donc, effectivement, l'intention est très importante aussi. Et puis, le problème, c'est qu'on va progressivement voir se développer des morales où seule l'intention va compter. Et donc, ça, c'est pas le cas ici. Morale seulement de l'intention, du moment que tu as l'intention de bien faire, même si tu es maladroit et ne réussis pas, tu es injuste, tu es bon. Mais non, pour Aristote, non, il faut réussir. C'est pour ça que l'idée de bon implique celle de réussite. Et c'est pour ça que c'est exigeant du point de vue du raisonnement. Parce qu'il ne faut pas se tromper en le faisant. Si on dit « je veux bien faire, mais je suis tellement maladroit », mais il ne faut pas être maladroit. Mais c'est vrai que l'intention est importante et que ça donne une qualité au geste et pas seulement une quantité.
Au début du texte 6, il y a écrit les lois prononcent sur tout.
Oui.
Et après, tu as dit la loi régit les relations vis-à-vis d'autrui,
oui.
Sur ton corps. Est-ce qu'il y a une idée de séparation, de limitation de,
oui.
De l'exercice de la loi ?
C'est plus dans le sens où il y a vraiment une division dans les qualités et les formes de justice entre ce qui ne peut s'exercer que dans la relation avec quelqu'un d'autre et ce qui peut s'exercer tout seul. C'est-à-dire, évidemment, généreux, tu ne peux l'être que vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Mais il y a des qualités qui se font tout seul. Je pense, par exemple, à la magnanimité. Tu peux être magnanime sans nécessairement exercer, enfin, sans que ça s'exerce nécessairement dans des relations avec d'autres. C'est une caractéristique de la personne isolée aussi, le fait de s'apprécier à sa juste valeur et de voilà, c'est quelque chose de personnel. Enfin, il n'y a pas besoin de relations avec d'autres. Et donc, ce qui ne concerne pas les relations avec d'autres n'est pas visé par la loi parce que ça ne lui importe pas. Donc, effectivement, c'est indirectement, c'est une certaine limitation de la loi parce qu'elle n'a pas à s'occuper de ce que développent les individus pour eux-mêmes et sans que ça ait de l'influence, des conséquences sur les autres. Bon, on aura la suite la semaine prochaine.